Aujourd'hui, c'est samedi, nous sommes le 6 juin. Le journal Bernadette Chamonaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour papa, maman, les monos sont masqués. Masque obligatoire pour les encadrants des colonies de vacances cet été. C'est l'une des mesures du protocole sanitaire qui vient d'être envoyé aux organismes. En Italie, on prend la température des touristes dès le pied posé sur le sol. Reportage à l'aéroport de Rome. Oui, la police française peut être raciste. Témoignage rare, vous l'entendrez, d'un membre des forces de l'ordre. Et puis dans ce journal encore, le plan du gouvernement pour verdir les petites et moyennes entreprises. Et souvenir, il y a 20 ans, c'était la première victoire d'une Française à Roland-Garros. On verra qui.
Les invités de la matinale à 7h50, Patricia Martin, vous recevrez
Catherine Pégard, présidente de l'établissement du château de Versailles, qui rouvre ses portes aujourd'hui.
Et puis à partir de 8h20, notre invité sera Daniel Cohn-Bendit. Il s'interroge dans un documentaire sur son identité juive. Vos questions ce matin à Daniel Cohn-Bendit, c'est maintenant 01 45 24 7000.
France Inter.
Et donc cette question, à quoi vont ressembler les colonies de vacances de l'été du Covid ?
Alors on en sait un peu plus aujourd'hui, après des semaines d'attente, les organismes ont enfin reçu leur feuille de route. Le document que vous avez pu lire, Claire Chaudière, rassurera peut-être les parents, mais inquiète les organisateurs. Les conditions sont certes moins lourdes que pour les écoles, mais il y a quand même de sérieuses restrictions.
Parmi les points sensibles de cette première version du protocole sanitaire, le port du masque obligatoire 100% du temps pour les adultes encadrants, problématique pour Gabriel Hubschwerlin de l'Union nationale des centres de vacances.
Des enfants de 5, 6, 7 ans qui ne voient jamais le visage de leurs encadrants, ça peut quand même être questionnant.
Chaque activité devra avoir maximum 12 participants, désinfection de tous les locaux deux fois par jour et puis autres restrictions.
Les lits superposés sont proscrits. Donc quand vous avez un centre qui a prévu d'accueillir 100 mineurs sur des lits superposés, on ne peut accueillir que 50 mineurs maximum.
Il faudra donc annuler des colonies de vacances faute de faisabilité ou de rentabilité, estime Louise Fenelon de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air. Et pourtant,
cette année, elles ont une vraie utilité sociale et sociétale de sortir les enfants de cette période compliquée, de leur permettre de s'aérer, de retrouver des copains.
Mais à quel prix ? Arnaud de Béchevel est à la tête du réseau Vitacolo.
On a l'impression qu'on est plus sur un dernier baroud d'honneur. On n'est pas sûr de pouvoir faire une année 2021, alors que l'État pourrait simplement dire « Ok, on sait que vous galérez, mais on va vous soutenir ».
Après l'attente du protocole, une autre attente démarre donc pour les organisateurs, celle d'un plan de soutien financier à la hauteur des enjeux.
Et pour les familles modestes, pour qu'elles puissent partir en vacances cet été, l'État va débloquer 200 millions d'euros. 250 000 enfants pourraient en bénéficier en colonies de vacances, 400 000 en écoles ouvertes. La règle des 100 km n'existe plus, mais les Français ne se précipitent pas dans les trains. À peine 40% des places occupées ce week-end dans les TGV. Et pour cet été, les réservations sont encore faibles.
Mais des voyageurs pourtant très attendus dans les pays touristiques.
Comme l'Italie, où le retour des touristes est vital. Alors la sécurité est la priorité, notamment à l'aéroport de Rome, le plus grand du pays, où l'on ne lésine pas avec la prise de température. Reportage Bruce de Gazin.
Ils sont trois à parcourir le terminal 3 de l'aéroport, le seul ouvert. Ils portent un casque intelligent, muni d'une caméra sur le côté et d'une visière argentée. Il mesure la température des passagers. Ivan Bassato est le directeur opérationnel de l'aéroport de Rome.
Notre collègue peut visualiser les gens à 7 mètres de distance. Elle a un viseur sur son œil gauche qui utilise les techniques de la réalité augmentée et obtient immédiatement la température de la personne qui est devant elle. Ce n'est pas une caméra qui filme, c'est une caméra thermique.
Derrière le casque, Floriana, le visage caché par un masque, nous explique ce qu'elle voit.
Je vois une température de 36,5. Je peux voir le corps et je peux avoir la température du visage aussi, ou du corps en entier qui apparaît en couleur. Mais l'image n'est pas bien définie.
Les passagers ne sont pas vraiment gênés par cette mesure de la température à leur insu. Franco attend son avion assis seul sur un banc.
Non, ça va, je suis d'accord. Mais il faudrait, selon moi, un peu plus de liberté quand même.
Pas de problème de confidentialité, assure le directeur de l'aéroport, car les données sont anonymes. Il y a aussi 80 caméras thermiques fixes installées aux différentes entrées de l'aéroport. À Rome, Fiumicino, Bruce de Gelsin, France Inter.
L'actualité à l'étranger, c'est ce coup dur porté par l'armée française aux terroristes du Sahel. Le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droukdel, a été tué mercredi dernier dans le nord du Mali. C'est la ministre de la Défense qui l'a annoncé hier soir.
Aux États-Unis, nouvelle journée de mobilisation contre le racisme et les violences policières.
New York, Miami, Washington, la capitale où les organisateurs attendent 1 million de personnes cet après-midi. Et puis en France aussi, de nouveaux rassemblements sont prévus en hommage à George Floyd et pour la vérité sur la mort d'Amada Traoré, des rassemblements qui sont interdits, notamment à Paris. Le racisme dans la police française. Alors que le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour injures à caractère raciste, provocation à la haine raciale, après la révélation de messages racistes sur les réseaux sociaux de la part de membres des forces de l'ordre, c'est un témoignage rare que vous allez entendre. Celui de ce policier, il témoigne de manière anonyme au micro de Margot Steve.
Ce policier, que nous appellerons Samir, a commencé sa carrière il y a 10 ans dans la police nationale. Il est d'origine maghrébine et pour lui, les remarques racistes ont commencé dès ses premiers jours dans la police.
Quand on vous traite de bougnoule le premier jour de votre affectation, c'est qu'il y a un problème. Je me souviens d'un collègue, quand j'étais plus jeune, qui disait qu'il refusait de serrer la main aux policiers noirs et arabes parce que pour eux, ils n'avaient rien à faire dans l'institution. Je bouillonne au fond de moi, mais le problème, c'est que j'aime mon métier, mais j'aime pas ce que certaines personnes en font. C'est inquiétant parce qu'on se dit... Quelle sera la prochaine étape ?
Des remarques racistes qui se voient aussi sur le terrain. Ils constatent par exemple que les jeunes noirs ou arabes sont contrôlés beaucoup plus souvent que les autres.
Tous les jours, je le constate, certaines personnes en fait sont contrôlées de plus en plus et moi-même, je suis contrôlé. Je me suis fait contrôler pendant le confinement en faisant les plus bêtes des choses en fait. Je descendais mes poubelles. On a attendu que je le passe le pas de ma porte pour me contrôler. Quand j'enlève mon uniforme, j'ai plus sur mon front marqué policier quoi. Je reste un maghrébin et je suis contrôlé au même titre que eux.
Samir a pensé plusieurs fois à quitter la police, mais je veux mener le combat jusqu'au bout, dit le jeune homme. Faire honneur aussi à ses grands-parents qui ont combattu pour défendre la France.
Témoignage recueilli par Margot Steve. 250 millions d'euros pour aider les petites et moyennes entreprises à verdir leur activité. Un plan annoncé Sandy Dauphin par la ministre de la Transition écologique.
L'idée est de lancer une sorte de club de TPE et de PME engagés dans la transition écologique avec des ambassadeurs et un emblème, un coq vert. Le plan prévoit aussi une nouvelle enveloppe de prêts pour aider les entrepreneurs à acheter des machines moins polluantes ou encore faire de la rénovation énergétique. Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d'investissement BPI France.
Un prêt qui s'appelle le prêt BPI France ADEME vert à 10 ans avec une enveloppe de 100 millions. Ensuite, on lance un deuxième prêt qui s'appelle Éco-Énergie, qui est un prêt qui va financer les équipements qui eux-mêmes produisent des certificats d'économie d'énergie.
Le gouvernement veut aussi inciter les entrepreneurs à embaucher de jeunes diplômés pour 1 ou 2 ans pour les accompagner dans leur transition écologique grâce à un dispositif déjà existant, le volontariat territorial en entreprise.
L'entrepreneur, il faut qu'il ait une ressource humaine à ses côtés. Ça pourrait être les jeunes diplômés français. Quand vous avez fait 1 an de bras droit d'un patron de PME, vous n'avez aucun problème à trouver du boulot à peu près partout. Si en plus on vous dit que le projet, ça sera la décarbonation de l'entreprise, je pense que c'est extrêmement motivant pour le jeune.
Les entrepreneurs pourront aussi faire une auto-évaluation des efforts à fournir pour réduire leurs émissions de CO2 sur un site internet baptisé le climatomètre.
Sandy Dauphin. Eric, une question. Vous savez ce qui aurait dû se passer aujourd'hui à Roland-Garros?
Oui, la finale dame de Roland-Garros.
Bravo. Absolument. Autre question. Il y a 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé?
Et une Française remportait pour la première fois la finale dames face à une Espagnole, Conchita, je ne sais plus son nom d'ailleurs.
Martinez. Merci pour le lancement, Eric. Fabrice Abgral.
C'était le 11 juin 2000. Ce jour-là, Marie Pierce devient la première Française de l'ère Open à remporter Roland-Garros au terme d'un tournoi magistral au cours duquel elle avait dominé notamment Monica Seles, Martina Hingis et en finale Conchita Martinez. Oubliez la finale perdue en 1994 face à Arantxa Sánchez. En 2000, porte d'Auteuil, Marie Pierce était intouchable, survoltée, déchaînée, portée par sa foi en Dieu. Pendant 15 jours, elle a joué avec un chapelet autour du cou. En 2000, à Roland-Garros, Marie Pierce obtient la consécration qu'elle attendait.
C'était mon rêve dans le tennis qui est devenue réalité. J'ai vécu des moments tellement forts avec le stade rempli, les fans derrière moi, et quand je gagnais un point, c'est comme si tout le stade criait. Je croyais en moi, je croyais dans mes capacités, et puis les autres autour surtout croyaient en moi et m'encourageaient. J'ai toujours cru dans le travail, donc moi je me suis dit, il faut que je continue, il faut que je persévère, parce qu'un jour ça va payer.
Et ce jour-là, c'était le 11 juin 2000. Marie Pierce disputera et perdra une autre finale en 2005 face à Justine Hénin. Mais mis à part elle, depuis 20 ans, aucune autre Française ne s'est imposée à Roland-Garros ou atteint la finale.
Et dernière question, Eric. Alors, quand est-ce que ce sera le prochain Roland-Garros ?
Eh bien, on espère septembre, octobre, avec notamment pour la première fois le toit ouvrant à Roland-Garros pour s'abriter de la pluie. On n'avait jamais vu ça et il est fini d'être construit. C'était le journal de Bernadette Chamonix.
Merci pour la conclusion, Eric.